Bonjour Marc Attali.
Bonjour.
L'État d'Israël fête aujourd'hui son 70e anniversaire. Est-ce que vous diriez que votre pays ressemble à ce qu'avaient espéré ses pères fondateurs ?
Absolument. Je pense que quand on regarde à notre passé et notre présent, on a toute la certitude et tout l'optimisme quand il s'agit de l'avenir de l'État d'Israël. Un pays avec une prospérité économique, un pays de start-up, un pays qui est basé sur des valeurs démocratiques, sur les valeurs et l'héritage du peuple juif, un pays qui aujourd'hui est à l'avant-garde des technologies, à l'avant-garde des pays développés, un pays qui fait partie de l'OCDE, un pays qui contribue aussi à l'humanité à travers ses acquis, à travers ses réalisations. Absolument. On a toutes les raisons d'être fiers.
70 ans après, Israël est un pays dont les frontières ne sont toujours pas clairement définies. Est-ce que cette forme de précarité peut durer sans limite ?
Écoutez, en ce qui concerne Israël, Israël a prouvé dans le passé que quand il y a un interlocuteur, un partenaire sincère et honnête avec lequel on peut faire la paix, on peut faire la paix. C'était le cas avec l'Égypte, c'était le cas avec la Jordanie. Malheureusement, c'est pas le cas actuellement avec les Palestiniens, bien que dans le passé, bien sûr, il y a eu des négociations, il y a eu des tentatives d'arriver à un accord, mais le refus palestinien, jusqu'à présent, fait que on peut pas, pour l'instant, arriver à un accord de paix. Non pas parce que Israël ne le veut pas, c'est parce qu'il y a une intransigeance palestinienne. Il y a un manque de volonté et de reconnaissance que la paix est aussi un intérêt palestinien et pas uniquement un intérêt israélien. Le problème majeur, c'est pas maintenant où passera, quel sera le tracé de la frontière. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le manque d'acceptation et de reconnaissance du côté palestinien de la légitimité d'Israël en tant qu'État-nation du peuple juif.
Alors, on va revenir dans un instant sur cette question du processus de paix. Mais d'abord, ce 70e anniversaire va coïncider avec le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. C'était une promesse de campagne de Donald Trump. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce geste-là ?
Pour moi, c'est un geste extraordinaire. C'est un jour historique. Pour la première fois, un État tel que l'États-Unis, un allié d'Israël, un ami d'Israël, depuis toujours, transfère son ambassade tout en reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Ça veut dire que ce qui était évident pour nous depuis la création de l'État d'Israël, ou alors depuis des millénaires que Jérusalem était au cœur de la nation du peuple juif, en fait, les Américains, ici, légitiment, officialisent, reconnaissent Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. C'est-à-dire, c'est une chose qui a été, c'est une journée extraordinaire, une journée historique et symbolique, avec un message très très fort à tous les autres États. De manière, il y a d'autres États qui ont l'intention de le faire prochainement, tels que le Guatemala et d'autres pays de l'Amérique du Sud,
Paraguay. Oui, pour l'instant, ça reste ultra minoritaire. La quasi-totalité des pays du monde ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale d'Israël, pour des questions de droit international, peut-être, avant tout.
Pour des questions politiques. Il faut la réalité qu'elle est. Depuis 70 ans, les États n'ont jamais reconnu Jérusalem comme la capitale, alors que nous sommes le seul pays au monde que sa capitale n'est pas reconnue. Est-ce que nous, on va dicter à un certain pays que sera sa capitale ? Est-ce que nous, on a le droit de contester la légitimité de Paris en tant que la capitale de la France, ou Washington, capitale des États-Unis, ou Londres, la capitale de la Grande-Bretagne ? Alors que pour nous, ce qui est évident, c'est que Jérusalem est la capitale du peuple juif, la capitale d'Israël, et cela dure depuis des millénaires.
Enfin, le parallèle a ses limites, puisqu'il n'y a pas à Paris de territoire occupé ou d'implantation, pour reprendre la terminologie israélienne.
Écoutez, on ne va pas maintenant faire des comparaisons entre la France et Israël.
Non, mais c'est vous qui avez cité Paris.
J'ai cité Paris comme exemple, j'ai cité Londres comme exemple, oui. J'ai cité Washington comme exemple. Jérusalem est la capitale d'Israël. C'est un fait, et c'est un fait qu'il faut le reconnaître.
Au nom de l'histoire, c'est ce que vous dites.
Au nom de l'histoire, mais c'est la réalité.
Oui.
C'est la réalité. Jérusalem est la capitale d'Israël. Jérusalem n'a jamais été une capitale d'un État arabe. Vous savez, pendant l'Empire ottoman, il y a à peine quelques dizaines d'années, hein, au début du siècle précédent, La Palestine, à l'époque, c'était vraiment, c'était comme on dit, un bled perdu dans l'Empire ottoman. Jérusalem n'a jamais été vraiment le centre d'une certaine empire en tant que capitale. Elle était toujours la capitale du peuple juif. Et dans les temps modernes, c'est la capitale de l'État d'Israël.
Ce geste de Donald Trump, est-ce qu'il ne risque pas de se transformer d'une certaine manière en cadeau empoisonné compte tenu des fortes tensions que pourrait provoquer le transfert de l'ambassade?
Mais je comprends pas comment on peut parler de quelque chose qui peut empoisonner alors qu'il s'agit ici d'un geste qui est logique.
C'est une expression cadeau empoisonné, vous la connaissez.
Empoisonné, vous savez de quelle perspective vous partez. Ça, on parle d'Israël et disons du monde raisonnable, c'est pas un empoisonnement. Le problème, c'est que de l'autre côté, malheureusement, après 70 ans, depuis depuis la résolution de la partition de l'ONU en 1947, à l'époque, comme vous le savez, la décision d'établir un État juif, un État arabe, alors que la partie juive a accepté, le côté arabe l'a rejeté. Alors, depuis 70 ans, il y a un conflit qui existe. Alors, quand on voit un empoisonnement, c'est pas côté israélien, c'est le refus du côté palestinien de reprendre les négociations sans condition préalable, de s'asseoir autour de la table et de négocier et de parler de paix et non pas à travers les fusils et non pas à travers les attentats suicides et pas à travers les attentats au couteau et c'est pas à travers soi-disant des manifestations d'une organisation terroriste telle que le Hamas qui prend en otage des centaines, des milliers de Gazaouites pour provoquer l'armée israélienne. Et la chose qui est encore plus paradoxale et triste, c'est qu'à chaque fois, mort, chaque blessé côté palestinien, le Hamas se réjouit parce que c'est dans un intérêt. C'est une logique d'une organisation terroriste. Nous faisons face, on est sur le front de la lutte contre le terrorisme.
Le processus de paix est au point mort depuis des années. Maintenant, les États-Unis sont censés présenter prochainement un plan de paix. Donald Trump l'a dit. Rien n'indique pour l'instant qu'il soit prêt. À quoi vous vous attendez de la part des États-Unis? Quel type de plan de paix pourrait-il présenter?
Bon, j'avoue que si ce plan de paix avait été publié, on l'aurait su.
Alors,
on attend un plan de paix américain et on s'attend, un plan de paix qui soit réaliste, un plan de paix
Mais qui serait présenté sur la base de deux États?
Le principe de deux États a été accepté depuis longtemps par l'État d'Israël. C'est pas ça la question. La question, c'est comment vraiment on arrive à une paix sincère, à une paix dans laquelle deux États peuvent vivre côte à côte en paix et en sécurité. Mais ce qu'on voit actuellement du côté palestinien, c'est pas cette intention. On le voit à travers les manuels scolaires, par exemple, dans les écoles palestiniennes dans lesquelles Israël n'apparaît pas sur les cartes du Moyen-Orient. On le voit à travers l'incitation à la haine. On le voit à travers ce refus de la reconnaissance de l'État d'Israël. On le voit à travers, récemment, le discours avec des propos antisémites de Mahmoud Abbas. Alors dites-moi, quel message de paix il y a dans un tel discours avec des propos antisémites? Quel est le message aux jeunes générations palestiniennes? Quel est le message à la communauté internationale? Quel est le message à Israël? Quel est le message à Israël quand on entend de tels propos? Mais malgré tout cela, le Premier ministre israélien a déclaré à plusieurs reprises qu'il est prêt à chaque instant, sans condition préalable, de reprendre des négociations avec les Palestiniens. Pour l'instant, il y a un silence côté palestinien.
Merci Marc Attali. Bonne journée.
Merci.